Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission chaque jour, vous informer autrement, vous ouvrir les yeux sur des initiatives qui éclosent autour de vous et qui ne demandent qu'à se développer. On s'est tous déjà demandé ce que deviennent nos cheveux coupés chez le coiffeur. Eh bien, une start-up les récupère pour en extraire la kératine, c'est Capilum. Et c'est la solution avec Elisabeth Assayac. Vous allez voir, c'est bluffant. Ça permet de soigner les grands brûlés. On monte le son aujourd'hui dans La France bouge, car c'est à la musique enregistrée que nous allons nous intéresser. Le marché fait son bilan et parle perspective. C'est ça, la France des savoir-faire, des territoires et des idées. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Soyez les bienvenus dans la France Bouge Academy. Ici, vous le savez, un pas de star, ce sont vos idées qui sont à l'honneur. Vous qui nous écoutez, qui avez un projet à défendre, vous serez peut-être d'ailleurs avec nous demain, après-demain, qui sait, pour faire changer les choses. Elisabeth Assayag est bien sûr à mes côtés comme chaque jour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
À côté de nous aussi, notre duo d'experts, Éric Lemaire est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Directeur de la communication de la marque et de la RSE chez AXA France. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Bernadette Sauzé, qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Déléguée générale du réseau Initiative France. Et je vous présente Clotilde. Clotilde Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, Clotilde, et vous êtes la fondatrice de Koya. Ça s'écrit K-O-Y-A. C'est une plateforme qui a pour mission, finalement, de nous accompagner dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique.
Absolument.
C'est vrai qu'on n'a pas tous le mode d'emploi, ou qu'en tout cas, on a l'idée, mais pas toujours les bons gestes. Vous nous aidez à nous y mettre et vous avez 1 minute 30 pour nous convaincre de vous suivre dans l'aventure.
Exactement. Donc Koya, c'est une solution qui permet à tout individu de réaliser donc sa transition écologique de manière complète, cohérente et sans retour en arrière. Donc imaginez maintenant que vous avez besoin de changer quasiment toutes les habitudes de vie que vous avez au quotidien. C'est difficile et pourtant c'est ce qu'il faudrait pour que l'on puisse vivre à 9,7 milliards de personnes et à moins de 2 degrés en 2050. Donc pour ça, Koya va vous simplifier un petit peu la vie. De manière assez simple, vous allez pouvoir vous connecter sur notre plateforme donc koya-app.fr. Vous allez remplir un premier questionnaire qui va nous permettre d'évaluer votre impact environnemental. Et en fonction de ces résultats personnalisés, on va déterminer ensemble quel sera le programme qu'il vous faudra. Ensuite, quand vous allez commencer votre aventure avec Koya, vous pourrez avoir l'apport de 3 éléments hyper importants dans la transition écologique. Donc tout d'abord, du contenu éducatif, simple, complet, validé par des experts et personnalisé. Dans un deuxième temps, vous aurez accès à un outil d'évaluation en continu de vos progrès et de votre impact. Et troisièmement, l'accès à une communauté dynamique regroupant des acteurs du changement et animée par des mentors. Donc ainsi, Koya, c'est une plateforme qui vous permet un accompagnement personnalisé à la transition écologique et vraiment pour les particuliers.
Alors voilà pour le pitch. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est en cours, hein, c'est en cours de
Absolument.
Lancement. Vous êtes en période de financement participatif et si tout va bien, ce sera lancé en septembre 2020. On va voir tout de suite ce qu'en pensent nos experts, Éric Lemaire, Bernadette Sauzé. Séduit ou pas par Koya, Éric ?
Oui, je pense que c'est une excellente idée parce qu'on a évidemment aujourd'hui, enfin, dès qu'on parle transition énergétique, environnement, que ce soit dans les entreprises et à l'extérieur, ça résonne très fortement. Après, moi, je n'ai pas trouvé énormément d'informations, donc j'avais 2-3 trucs à vous demander. Et je trouve que, notamment, le point fort, vraiment, c'est l'outil d'évaluation. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Hein, donc voilà. Mais je n'ai pas très bien compris comment il fonctionnait, comment les gens vont ou sur le site, ou sur l'appli, ou sur une plateforme. Et puis, quels sont les critères, comment vous arrivez à construire, à suivre tout ça.
Alors, l'outil d'évaluation, en fait, on va le sous-traiter. Donc, ce n'est pas nous qui allons le développer. L'idée, c'est d'intégrer des outils qui existent déjà. Donc, pour l'instant, il y en a déjà qui ont été développés. Mais surtout, il y a un outil sur lequel on compte, qui est développé par la société Carbon 4, avec laquelle on aimerait travailler, qui développe un outil MyCO2, donc qui permet justement, en fonction de tout un ensemble de critères et l'élaboration du profil que la personne va mettre en place, qui va permettre de justement calculer l'impact carbone. Et nous, on aimerait aller un peu plus loin dans cette démarche en ajoutant aussi des dimensions, d'autres aspects écologiques comme l'eutrophisation de l'eau, l'impact sur la biodiversité ou alors la production de déchets. Parce que souvent, on se focalise trop sur l'impact carbone.
Bernadette
Sauzé. Écoutez, je trouve que c'est aussi un très beau projet, un projet responsable et citoyen. Et ce que je trouve, c'est que ce que vous apportez en plus, c'est en tout cas ce que vous apportez, c'est cette dimension scientifique, c'est la garantie scientifique que vous mettez derrière votre volonté de faire de la pédagogie écologique, c'est que vous vous attachez à ce que tout soit expertisé et garanti Exactement. Scientifiquement. Et vous mettez la science au service du progrès. Ça, je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est une des valeurs ajoutées que vous allez pouvoir développer, je pense.
Absolument. Je dirais même plus. Enfin, c'est presque la valeur ajoutée la plus importante, outre effectivement l'impact qui finalement, la mesure d'impact qui ne dépend pas nécessairement de nous. Vraiment, le fait d'avoir un accompagnement déjà qui soit personnalisé et durable dans le temps, ça, c'est forcément la valeur ajoutée. Mais surtout. L'aspect scientifique. En fait, on va mettre notre expertise déjà. Donc
parce que vous êtes ingénieur chimiste Exactement. Et vous avez un ami qui vous a rejoint dans le projet, qui l'est également.
Exactement. Donc moi, je suis plutôt en chimie fine et environnement. Lui est plutôt spécialisé dans les procédés chimiques. Et en fait, on est en train de créer tout un comité d'expertise donc dans différents domaines, que ce soit des chercheurs en biologie, en chimie, des journalistes, des historiens, des psychologues. Alors, on a tout ce comité d'expertise qu'on est en train de mettre en place pour être sûr que nos programmes soient les plus efficaces possibles et qu'on réalise vraiment la transition de la personne.
Vous venez chez moi, ou en tout cas je rentre en contact avec vous, qu'est-ce que vous allez me faire changer en premier ? Quelle est la chose sur laquelle il faut qu'on agisse en tout premier, dans une maison par exemple ?
Alors dans une maison, à l'échelle individuelle, le mieux ce serait déjà de commencer par diminuer la consommation de viande et de diminuer la prise des transports, notamment l'avion. Donc ce ne sera pas nécessairement chez vous, mais au moins dans vos habitudes de vie. Et le reste, en fait, va être déterminé par rapport à votre mesure d'impact. On va pouvoir établir ensemble le programme qu'il vous faudra en fonction de vos points faibles, en quelque sorte.
Par exemple, l'envoi des mails.
Exactement.
Ça peut jouer.
De toute manière, l'envoi des mails, exactement, fera partie donc, des programmes plutôt ciblés sur la consommation et le numérique. On essaye de segmenter nos programmes thématique.
Par thématique. Éric Lemaire.
Moi, je trouvais aussi intéressant le fait d'avoir une résonance dans une communauté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Mais vous la gérez comment, la communauté ? Et d'abord, il y a qui dedans ? Il y aura qui ? Est-ce que c'est toutes les personnes qui sont attachées ou qui ont acheté votre produit ? Je dis produit, mais comment ça fonctionne ?
Alors, la communauté, on aimerait la faire fonctionner sous forme de petits groupes de niveau, encadrés par des mentors. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu comme une petite famille avec laquelle on va pouvoir se challenger, avancer au quotidien. Soit une famille qu'on va déterminer en disant je veux jouer en quelque sorte et faire ma transition avec telle ou telle personne, soit si on est seul, on va pouvoir se faire attribuer en fait une ensemble de collègues de transition et nous on forme en parallèle des mentors pour les encadrer. Et ensuite on organise aussi des événements qui permettent de réhumaniser un petit peu ce côté très digital avec des ateliers, des conférences. L'idéal ce serait de pouvoir faire intervenir nos experts sur les conférences, voilà, pour avoir vraiment une dynamique communautaire qui soit à la fois enthousiasmante pour la personne mais en même temps efficace.
Je vois beaucoup d'enthousiasme et une préparation très approfondie de ce projet, c'est déjà un facteur de réussite, mais c'est une entreprise que vous allez créer, donc il faut aussi que vous, j'imagine que vous êtes aussi en train de travailler sur le modèle économique,
Absolument.
Sur le marché, et puis pour développer ce marché, il vous faut de l'argent, donc la recherche de financement. Et il y a une chose importante aussi, un troisième sujet qui est l'équipe. La réussite des startups, ça passe beaucoup par la composition de l'équipe et il faut des complémentarités dans votre équipe.
Oui.
Donc, est-ce que sur ces trois sujets, où vous en êtes ?
Alors, déjà, effectivement, on a eu tout un travail d'étude de marché qui a été fait et d'établissement d'un premier business model. Mais en ce moment, il est en train d'être retravaillé justement pour pouvoir faire face à plus de complexité dans la solution. Il faut savoir que pendant un an, j'ai travaillé seule sur le projet en parallèle de mes études, donc ça a été forcément difficile et je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'une équipe et besoin d'associés pour continuer. Donc j'ai eu la chance d'être rejointe par un ami, donc justement qui est ingénieur chimiste spécialisé dans les procédés, qui va rester 7 mois avec moi et plus si tout se passe bien. Et également un développeur en fait, qui a découvert le projet par Ulule, donc qui est notre plateforme de financement participatif, qui a été intéressé par le projet et qui va très très probablement continuer avec nous. Donc affaire à suivre.
Affaire à suivre et vous viendrez nous donner évidemment des nouvelles puisque le premier test est prévu pour le mois d'avril.
Exactement.
Ça s'appelle Koya, K-O-Y-A. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Europe 1.
Vous écoutez La France Bouge et vous savez qu'ici on aime les initiatives bluffantes. En voici une, récupérer les cheveux coupés pour en extraire la kératine. C'est la solution trouvée par Elisabeth Assayag, par Capilum, pour aider à soigner les grands brûlés.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Pourquoi est-ce que nous mettons nos cheveux à la poubelle quand on les coupe? Eh bien, sachez qu'il existe une solution qui fait du bien à la peau et à la planète et elle s'appelle Capilum, Elisabeth.
Oui, parce qu'en France, les cheveux, ce sont 4000 tonnes de déchets par an. Et cette start-up, Capilum, qui existe depuis moins d'un an, collecte les cheveux des salons de coiffure. Savez-vous pourquoi?
Non.
Eh bien parce qu'ils veulent en extraire la kératine. La kératine, c'est une protéine, hein, c'est un élément structurant des poils, des plumes, des ongles, du cheveu. Et le cheveu est composé de 95% de kératine. Et cette kératine, c'est elle qui protège les cheveux des UV, de l'eau de mer par exemple. Et l'idée de Capilum, eh bien, c'est que cette kératine aide à régénérer la peau des grands brûlés ou alors elle peut aider aussi à dépolluer parce que les cheveux absorbent 9 fois leur poids en hydrocarbures. Vous allez tout nous expliquer. Bonjour Clément Baldelou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci à vous.
Le cofondateur de Capilum. Alors d'abord, pourquoi le cheveu? C'est parti de quoi?
Alors c'est parti de quoi? Avec James, donc mon associé, on était dans la même promo et on réfléchissait sur les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. Et c'est vraiment après... plusieurs réflexions et pendant notre master qu'on a décidé de se concentrer sur les cheveux. On est allé voir nos coiffeurs respectifs qui nous ont dit « nous, on les jette ». On a suivi l'avis du cheveu une fois qu'il était coupé, Suez, Veolia, qui nous ont dit « ça crée des problèmes environnementaux, le fait que le cheveu ne soit pas recyclé aujourd'hui ». Donc on s'est dit « il faut trouver une solution ». Les coiffeurs sont considérés comme un métier polluant aujourd'hui. On veut les faire rentrer dans une démarche éco-responsable en enlevant le cheveu du circuit des déchets pour le valoriser.
Donc vous allez les récolter auprès de plusieurs, de centaines de salons de coiffure. Et ensuite, vous en faites quoi?
Tout à fait. Alors déjà, on a mis une logistique en place via une filiale logistique du groupe La Poste, qui s'appelle Urbi. Mm-hmm. On est également en discussion avancée avec le groupe La Poste pour pouvoir trouver une solution nationale, solution qu'on a trouvée. Et on a récupéré sur Clermont-Ferrand pour trouver un process. Aujourd'hui, on met à disposition des bacs adaptés chez les coiffeurs, qui, dès qu'ils ont le bac plein, nous venons eh bien, récupérer cette matière-là.
Une fois récupérée,
eh bien, nous avons 3 secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on se positionne comme une véritable filière de valorisation du cheveu. Peut-être que demain, on trouvera encore d'autres applications pour le cheveu, parce qu'il a des propriétés qui sont exceptionnelles. Alors oui, la kératine, qui est encore en phase de recherche, puisque eh bien, nous avons su extraire cette kératine-là, la kératine fait partie intégrante de la peau et a des vertus cicatrisantes. Et donc, on se positionne sur le marché de la régénération de la peau des grands brûlés. Mais le cheveu, en tant que fibre, nous pouvons l'utiliser. L'utiliser donc pour des logiques de dépollution, mais aussi pour des applications horticoles, parce que le cheveu est bon pour le jardin également.
Alors, mais quand vous dites que donc, vous voulez valoriser cette la filière du cheveu, vous faites comment, par exemple, les cheveux pour les grands brûlés? Vous allez les déposer dans des laboratoires? Vous en faites quoi ensuite? Alors, vous avez des interlocuteurs pour ça?
Tout à fait. Alors, on travaille avec des laboratoires et des industriels. Le laboratoire que nous avons utilisé jusqu'à aujourd'hui, c'est un laboratoire qui nous a été mis à disposition puisque nous avons gagné un concours sur la région de Clermont, qui nous a permis d'établir nos tests et nos extractions de kératine. On s'était d'ailleurs mis en collaboration avec l'ICCF, donc l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand.
Donc là, un laboratoire pour les grands brûlés. Et c'est comme ça avec chacun de vos interlocuteurs.
Exactement.
Que dit notre coach, Eric Lemaire?
Eh bien, je dis qu'il présente très très bien son entreprise, Clément. C'est une excellente idée. Il a une très belle chevelure, d'ailleurs, je tiens à le dire.
Merci
aussi. Et puis Clermont. Alors, j'ai une affection particulière pour Clermont parce que j'aime beaucoup le rugby, et notamment ce club. Voilà. Une fois que tout ça est dit, je me disais que moi, j'ai débarqué complètement. Je savais pas du tout que ça existait, que le cheveu avait autant de propriétés, mais les ongles, comme vous avez dit aussi. Donc, on pourrait peut-être faire aussi du ramassage chez tous ces petites shops qui s'ouvrent là pour le. Non, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'embarquer encore plus les coiffeurs en leur donnant un label éco-responsable ou
Absolument.
Je sais pas, votre coiffeur soutient la recherche par exemple, ça aiderait aussi peut-être à, déjà en avoir d'autres.
Il y a d'autres associations, voilà. Il y a les coiffeurs
bien sûr qui travaillent on travaille dans un but commun, on n'a pas exactement le même modèle, mais par exemple pour revenir sur ce que vous dites qui est une très très bonne remarque, nous on veut fédérer cette communauté, On veut faire en sorte que les coiffeurs aient le bon geste. On intervient déjà auprès des écoles de coiffure pour apprendre le bon geste aux nouveaux coiffeurs. Et on met en place, évidemment, un label, une sorte de label Capilum qui permet en fait de créer ce sentiment de communauté, de coiffeurs engagés.
Une fois que vous avez déjà eu du résultat, bon, votre entreprise est jeune, elle date d'avril 2019, mais est-ce que déjà vous avez vu le résultat des cheveux récoltés ?
Ah oui, bien sûr.
Alors, sous quelle forme ?
Alors, à Clermont-Ferrand, on a récupéré plus d'une tonne de cheveux déjà. Et puis, sous quelle forme, en fait, on arrive à faire ce qu'on appelle du textile technique. Donc, ce sont des tapis de cheveux qui serviront donc pour les applications de dépollution et des applications horticoles. Et pour la kératine, c'est une petite poudre blanche que nous arrivons à faire. Mmh.
Moi, j'ai une question pour les particuliers. Oui. Vous avez parlé de partenariat avec La Poste. Est-ce que demain, je pourrais, une fois que je nettoie ma brosse, vous envoyer mes cheveux ?
Absolument. Alors, ou ça sera du dépôt sur des points d'apport volontaires directement à La Poste ou chez un coiffeur. On part du principe que tout le monde a un coiffeur, en général. Et donc, la meilleure des façons, c'est d'aller lui en parler.
Levée de fonds prévue, je
oui,
crois.
Oui, il y a une levée de fonds qui a été prévue. Votre levée de fonds, c'est en deux temps, je crois que 300 000 euros cette année, l'objectif ?
C'est ça, première année, 300 000 euros, deuxième année également, 300 000 euros.
Et ensuite, puis... vous explosez les compteurs.
Écoutez,
3
j'espère
millions
bien,
d'euros,
j'espère
mais on bien. Vous le souhaite, on vous le souhaite.
Oui, merci beaucoup.
Pour réinvestir, pour embaucher.
Oui, exactement, oui.
En tout cas, ça s'appelle Capilum. C'est une très, très belle initiative que la vôtre. Merci d'être venu nous parler de cette solution aujourd'hui en direct
Merci
sur
beaucoup
Europe 1.
Et parlez-en à votre coiffeur.
Oui, évidemment.
Il nous écoute.
Europe 1.
Comment écoutez-vous la musique ? Tiens, bonne question. Dans votre voiture, en streaming, dans le métro, avec vos écouteurs, c'est elle qui est à l'honneur aujourd'hui. Vous allez voir que depuis l'époque du tourne-disque et des cassettes, ça a bien changé. Et oui, c'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus dans La France bouge. Ici, vous le savez, le son est à l'honneur, évidemment. Et quand on travaille comme nous dans une radio, notre ambition est de mettre un produit de qualité entre vos oreilles. Et qui dit radio dit aussi musique, bien sûr. C'est aujourd'hui que le syndicat de l'édition phonographique livre son bilan pour l'année écoulée et regarde aussi devant pour évoquer les perspectives du marché. La musique enregistrée, c'est ce que nous avons tous dans nos téléphones. Et on va le voir, hein, d'ici quelques minutes, le marché se porte mieux. Jugez plutôt, ce sont 785 millions d'albums qui ont été enregistrés l'année dernière. Et d'ici 10 ans, il paraît que le marché devrait flirter avec les 45 milliards de dollars parce que nous sommes évidemment de plus en plus nombreux à nous offrir des abonnements musicaux notamment. Cette passion pour la musique, elle démarre forcément dès le plus jeune âge. Bonjour Patrick Fabre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Munki. Alors ça s'écrit M-U-N-K-I.
Tout à fait.
Vous avez mis au point le premier service de streaming audio pour le jeune public. Il faut dire que vous avez dans votre famille, je crois, une artiste jeune public. Et c'est comme ça finalement que l'aventure démarre. On est en 2012.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux dimensions hein, vraiment au démarrage de ce projet. La première, c'est l'expérience personnelle. Je rappelle qu'on est deux cofondateurs avec mon associé Gilles Lévy et également parents à nous deux de quatre enfants. Alors, ils sont grands maintenant, mais dans les années 2000, au moment où on commençait à apparaître tous ces nouveaux services de diffusion audio, ils étaient en train de grandir et on a découvert YouTube, puis iTunes, les plateformes de streaming Spotify et Deezer. Et notre expérience, je vais raconter une petite expérience personnelle, mais à mon avis, elle parlera à tous les parents. Ça a été de commencer à s'en servir aussi pour les enfants, parce qu'on était des adeptes assez enthousiastes de ces nouveaux services. Donc je reviens un jour de la crèche avec mon petit dernier, il me chante une chanson, une comptine qu'il a apprise à l'école. Et je craque, je me dis ça c'est trop beau, il faut absolument qu'on le partage ce moment ensemble. Et quel est le premier réflexe ? Je vais sur YouTube pour essayer de la retrouver. Et je la trouve effectivement et je tombe sur une vidéo amateur avec un dessin animé un peu improbable et un son voilà, plutôt bricolé. Mais enfin, en tout cas, on la trouve. Quoi. Le problème, c'est qu'ensuite, on va peut-être continuer cette expérience. Puis je m'échappe dans la cuisine pour 2 minutes et je reviens. Et tiens, il a cliqué sur une publicité, il est parti sur un autre site. Même quand je reste avec lui, il tombe sur des publicités qui ne sont pas appropriées et parfois même, j'ai envie de dire, mal intentionnées. Bien que, et particulièrement parce qu'elle vise les enfants. Donc ça, c'est la première partie de l'expérience personnelle, très satisfaisante, à la fois sur la qualité des contenus audio et puis sur l'expérience d'usage, j'ai envie de dire.
Donc vous vous dites, il y a quelque chose à faire.
Là, il y a vraiment un problème. En tout cas, on n'a pas encore mûri l'idée, mais il y a un problème évident. Ensuite, mon parcours professionnel personnel m'amène aussi à ça, sous l'autre aspect des choses, je vois l'envers du décor. En 2012, je fonde avec une artiste jeune publique qui s'appelle Hélène Bowie, une maison de disques pour enfants.
Un label.
Voilà, un label qui a pour mission de commercialiser, de distribuer une série d'albums pour enfants. Et là, on découvre la réalité économique de ceux qui produisent et des artistes qui sont les interprètes sur ces albums audio pour enfants. Et là, ça va mal parce que, en fait, c'est la crise du disque, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire les CD se vendent de moins en moins bien et la monétisation sur les services numériques ne compense pas du tout les revenus perdus sur le CD.
Oui, il faut dire que jusqu'en 2013, effectivement, les chiffres n'étaient pas bons. Justement, les chiffres du marché français de la musique sont tombés ce matin. Ça va un peu mieux,
oui.
Elisabeth. Hein.
Alors, les chiffres sont loin de ceux du début des années 2000. Entre-temps, la crise est passée. Mais grâce à l'impulsion du streaming payant, le marché de la musique poursuit son redressement. C'est un marché qui affiche une croissance soutenue de 5,4%. C'est la quatrième année de suite de reprise depuis le début de la crise. 625 millions d'euros pour les ventes, que ce soit en magasin physique ou grâce au numérique. Et c'est un niveau de croissance que l'on peut comparer à celui de 2016.
Alors, Patrick Favre, vous lancez ce service. Comment est-ce que vous développez cette appli sur mobile? On va d'ailleurs en écouter un extrait dans quelques instants. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend là, par exemple? Arthur H, non?
Alors, Arthur H, exactement. C'est un merveilleux conte édité par les éditions Éveil et Découverte. Voilà, un conte oriental voilà, qui fait partie de ce catalogue assez extraordinaire, parce que si vous voulez, une des frustrations que nous on a eues aussi comme parents, c'est qu'on avait été des consommateurs assez assidus de cette merveilleuse production française, une exception culturelle vraiment, en CD et en livre CD qu'on trouvait dans les bibliothèques à la FNAC. Et notre grande frustration, ça a été de ne plus pouvoir la redécouvrir en numérique. Et on s'est donné vraiment comme mission de ramener à l'ère du numérique cette offre culturelle auprès des parents.
Du coup, vous êtes disponible dans les bibliothèques, c'est-à-dire qu'au lieu de prêter un CD, on va télécharger l'appli et avoir à disposition tout ce catalogue avec des histoires, avec des musiques originales aussi.
Voilà, alors la difficulté pour tous ceux qui écoutaient de l'audio pour enfants, c'est la disparition du CD nous amène à nous dire, mais comment on va faire? Donc dans les bibliothèques, c'était un vrai problème pour eux. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils faisaient découvrir des contenus, qui étaient le début d'une consommation qui allait ensuite se poursuivre dans les magasins, la FNAC, etc. Mais au début, on prête un CD ou on prête un livre CD. Et là, ils ne pouvaient plus le faire parce que les parents commençaient à leur répondre, mais écoutez, moi, je n'ai plus de lecteur CD. Il n'y en a plus sur mon ordinateur, il n'y en a plus dans la voiture, et ainsi de suite. Donc, on a commencé à apporter une série de services pour les bibliothèques, à la fois pour écouter sur place, voilà, avoir accès au contenu avec des bornes, avec des casques, où les familles peuvent venir écouter les contenus, et à la fois chez soi, à la maison, où la bibliothèque peut mettre en avant des contenus et les faire découvrir aux parents sur l'application.
Oui, j'ai téléchargé ce matin, effectivement. On a tout un tas de possibilités qui nous sont offertes. Question de notre coach, Éric Lemaire.
Oui, moi je trouve ça très bien de rassembler tous ces contenus, vraiment, je trouve ça super. J'avais deux petites remarques simplement. La première, elle est sur le fait que on va protéger un peu les enfants, comme vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous on est très attachés dans mon entreprise sur le permis internet, etc. Donc ça c'est très bien. Après, c'est sur l'accoutumance en fait des enfants aux tablettes. Je me pose des questions parce qu'on voit que c'est de 3 à 8 ans à peu près ce que vous avez fait. Et on se dit, est-ce qu'il ne faut pas le faire avec eux? Et c'est peut-être ça que vous donnez comme conseil. Parce que si on les laisse tout seuls avec ça pendant 3 heures en disant c'est super, là, il va regarder, écouter plein de trucs et je vais être tranquille, est-ce qu'après il ne peut pas y avoir des petits dérapages dans le fonctionnement?
Bon alors, il faut bien voir déjà qu'on s'est absolument concentré sur l'audio. Il faut comprendre ce qui se passe et il faut regarder un enfant en train d'utiliser cette appli, par exemple. Effectivement, on ne préconisera pas avant 3 ans. Là, c'est le parent qui va utiliser l'application et qui va découvrir un catalogue exceptionnel qu'il ne trouvera nulle part ailleurs et qu'il pourra diffuser sur une enceinte, etc. Mais quand les enfants sont un petit peu plus âgés, ils peuvent s'en servir. D'abord, ils se retrouvent dans un espace sécurisé, ce qui n'était pas le cas quand on était sur un site web ou même sur un service de streaming où vous avez toutes sortes d'autres contenus. Et ensuite, la pratique de l'audio, vous allez remarquer si vous regardez les enfants, et nous, on a été vraiment frappés par ça, c'est-à-dire, vous avez là juste une interface, justement pas comme YouTube, pas avec des images, qui est véritablement un outil sur lequel on appuie pour pouvoir lancer du son. Et ensuite, c'est l'imaginaire immédiat qui prend le dessus, c'est-à-dire vous voyez l'enfant qui rêve, qui regarde par la fenêtre, qui regarde même parfois l'enceinte elle-même et qui part dans l'imaginaire. Donc c'est au contraire une façon, j'ai envie de dire, d'anesthésier l'écran.
On reste ensemble et on continue à parler musique aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Écouter de la musique, c'est aussi vouloir la ressentir. Eh bien, figurez-vous que c'est possible aujourd'hui et de manière plutôt originale avec Basmi.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Quand on a un père chanteur, forcément, la musique est partout. C'est ce qui s'est passé pour vous, Raphaël Guichard, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez grandi à Béziers, dans le sud de la France.
C'est ça, exactement.
Votre père, Daniel Guichard, vous a très tôt initié à la pratique de tout un tas d'instruments. Et alors, en 2017, vous faites une rencontre avec Alban.
C'est ça, avec Alban Duroy, tout à fait. Donc c'était une rencontre au Startup Weekend de Perpignan. Donc le Startup Weekend, c'est un concours organisé par Google Entrepreneur, donc il y en a plein dans toute la France, dans le monde entier. Et donc j'ai rencontré Alban à ce moment-là. Donc il est arrivé avec une idée, donc il a pitché devant un amphithéâtre, de plein de gens. Moi je suis arrivé pour proposer mes services. Et donc il a pitché une idée de caisson de basse, voilà, cet appareil-là, qui permet de ressentir la musique, ressentir les vibrations.
Alors, on va expliquer, parce que, évidemment, moi, j'ai un casque sur les oreilles, qui n'est pas le casque habituel, qui est votre casque.
Tout à fait.
Et j'ai mis une... Comment est-ce que vous
cette espèce
ça
d'appareil, c'est ça, tout à fait.
Donc c'est un appareil qui se place au-dessus de l'épaule.
Exactement.
Et qui vient sur le thorax.
Comme une anse de sac.
Tout à fait.
Et qui permet en fait de ressentir la musique. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en train de vous parler, mais j'ai de la musique dans les oreilles que vous n'entendez pas. En revanche, moi, je la sens dans mon corps.
C'est ça. C'est tout
comme
à
si j'étais dans la musique.
Exactement. Donc c'est inaudible, on n'entend pas.
Et vous ressentez quoi, Raphaël?
Ah ben, ça fait des vibrations. On a le sentiment d'être vraiment dans le morceau. Je vais d'ailleurs faire circuler le casque pour partager l'expérience. Là, c'est Get Down On It, hein, mais vous voyez, il n'y a que moi qui l'entends.
Exactement.
Donc comment est-ce que vous l'avez conçu, ce premier prototype de Basmi?
Alors le premier prototype, donc Alban Duroy, il a eu l'idée. Donc il écoutait de la musique avec une enceinte portable. Il était allongé sur son canapé, donc tranquillement, et l'enceinte portable a basculé côté haut-parleur sur son thorax. Donc il a vraiment ressenti les vibrations à ce moment-là, et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc il est allé directement dans sa cuisine. Il y a certains grands inventeurs qui l'ont fait dans le garage, lui c'était dans sa cuisine. Donc il est allé créer le premier prototype, donc
oui,
qui est devenu
étonnant,
Basmi aujourd'hui. Donc c'est un caisson de basse portatif.
On le ressent.
Qui permet d'amplifier l'immersion chez l'utilisateur à travers tous les sons qu'il peut écouter, que ce soit de la musique, des jeux vidéo, du cinéma, etc.
Donc le premier prototype est sorti l'année dernière, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc l'invention était en octobre 2017. Et donc on a commercialisé le premier produit. Donc on a lancé des campagnes de financement participatif sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter. Et donc on a lancé des précommandes en mai. Et on livre les premiers produits depuis le mois d'octobre. Voilà.
Ouais, tout le monde est en train d'essayer,
exactement.
Tout le monde est bluffé par l'expérience. Et Éric Lemaire, c'est impressionnant.
Ouais, je suis bluffé par la ressemblance avec son papa déjà. Et je suis vraiment, c'est incroyable. On est complètement
fou, hein,
dedans. Ouais. Si on en avait plusieurs, je crois qu'on se mettrait à danser sur la table. Non, moi j'avais juste un truc que j'ai vu qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est le fait que ça permet de baisser en fait le son.
Exactement.
Et ça protège aussi les oreilles. C'est un vrai mal du siècle aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes en France qui sont touchées aujourd'hui par les problèmes auditifs. Donc je pense que ça, c'est un vrai truc supplémentaire, presque RSE en fait. Hein. Et il faut le dire parce que c'est à la fois c'est très sympathique, c'est très clair, mais en plus, il y a cette préservation. Et on voit bien que les jeunes aussi essayent de pousser au maximum le son. Donc achetez-vous ce truc.
Tout
formidable.
À fait. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus. On est toujours. Donc les contenus de divertissement. On est toujours obligé de l'utiliser sans système son. Par exemple, les téléphones. Aujourd'hui, on regarde des vidéos, des films où on joue sur nos téléphones. Et on a tendance à augmenter le volume sonore. On n'a pas forcément des appareils audio qui conviennent aussi. Ou même en concert. Par exemple, en concert, pour avoir ce côté, ce kick, ce côté vibrant, on a tendance à se mettre le plus près des enceintes, le plus près des caissons, pour ressentir cette immersion. Donc là, nous, à la maison, on peut avoir justement cette immersion tout en baissant le volume audio.
À la maison, donc ça veut dire que dans un futur proche, peut-être, on pourra le faire aussi en concert avec des systèmes qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui.
C'est ça, on l'a déjà d'ailleurs. On est actuellement au cinéma, donc dans les salles de cinéma, donc dans une en particulier au cinéma, donc au Méga Castier de Perpignan, où on a lancé des phases de tests. Donc on est actuellement dans les salles de cinéma, comme le principe des lunettes 3D. Donc les gens vont venir dans la salle, avec une location et vont pouvoir profiter de leur séance de cinéma avec une immersion supplémentaire.
D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'utilisation, qu'est-ce qui est le plus demandé ? C'est la musique, le gaming ou le cinéma ? Et qu'est-ce qui sera le plus demandé demain, d'après vous ?
Il y a un petit peu de tout. Musique, jeux vidéo, beaucoup. Le monde du gaming, c'est aujourd'hui immense. Il y a vraiment un intérêt, que ce soit dans l'e-sport ou genre juste le gaming chez soi, PC ou console. Et voilà, d'avoir cette immersion supplémentaire, d'avoir vraiment un atout. Et même nous, on a aussi une grande partie pour l'accessibilité, que ce soit pour les sourds et malentendants.
Alors justement, oui, parce que je rebondis sur ce que disait Eric, vous l'utilisez pour les personnes qui sont malentendantes et aussi pour les troubles autistiques.
Bien sûr, tout à fait. Pour les troubles autistiques, nous, on a eu, j'ai reçu un message un jour donc, sur les réseaux sociaux d'une dame qui nous a dit donc je suis mère de deux enfants en bas âge atteint d'autisme sévère, et grâce à votre produit, ils vont pouvoir ressentir les choses, ressentir ces vibrations-là. Et pour les personnes sourdes ou malentendantes, il y a vraiment un réel intérêt. Nous, on a des utilisations qui sont insoupçonnées, et c'est vrai que ce côté vibrant est hyper important pour eux.
Oui, Patrick Fabre, vous vouliez réagir ?
Mon témoignage, parce que moi, j'ai deux grands-parents qui étaient sourds, et je peux confirmer qu'effectivement, le seul moyen de transmettre à ma grand-mère l'expérience de quand je jouais du violon, c'était pour elle de venir toucher le violon et de sentir les vibrations.
La résonance.
Vraiment très important pour elle. Donc bravo pour ça. Je pense que...
Merci. Bah, c'est la meilleure réponse, la plus belle victoire pour nous, en plus de faire ce genre de choses.
On continue à parler musique ensemble. Ça, on le fait déjà depuis tout à l'heure, mais on aimerait aussi savoir jouer, avoir les bases, ce qui n'est pas mon cas. Bonjour Michel Brieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est possible finalement aujourd'hui que je joue de la musique grâce à vous, grâce à l'e-music, l'appli que vous avez créée. Il faut dire que vous êtes musicien au départ, vous avez fait du piano, vous avez aussi une licence de musicologie.
Tout à fait, oui. Oui, j'ai les bases musicales effectivement nécessaires.
Et alors, comment vous est venue l'idée de cette appli, l'e-music ?
Ben c'est en fait, j'ai fait une carrière au conservatoire un peu comme tout le monde, et en fait, on ne m'a pas appris les choses essentielles. Et c'est quand j'ai commencé à faire du bal, en fait, je me suis rendu compte que...
Du bal musette ?
Du bal, oui, on faisait des reprises de beaucoup de choses. Et en fait, avec 3, 4, 5 accords, on va faire des milliers de chansons.
Oui, vous vous êtes aperçu, en jouant finalement, qu'il y avait toujours les mêmes accords qui revenaient et qu'il suffisait de les connaître pour pouvoir pratiquement tout jouer.
Et le problème de la technique musicale, c'est que dès qu'on change de tonalité, on a pratiquement tout à réapprendre parce que la musique n'est pas ergonomique et il faut se tordre les doigts pour apprendre des accords ou des doigtés ou la colonne d'air pour jouer juste. Voilà. Et donc avec l'e-music, en fait, c'est un nouvel instrument de musique polyphonique live, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer son piano, sa guitare ou son accordéon. Et on n'a pas besoin de solfège et on n'a pas besoin de technique. On peut en jouer tout de suite.
Donc l'idée, c'est 2005, 2006, c'est ça ?
Voilà la première idée. Et donc là, je l'ai relancée depuis 3 ans. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait... Moi, j'ai un problème de droit d'auteur. J'ai pas les autorisations. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, on peut mettre des covers et toutes ces choses-là. Et rendre l'application disponible et l'apprentissage au public.
Alors, la nouvelle application, elle est sortie récemment, en 2019, la version améliorée. Elle est accessible sans Internet aussi, je crois.
Alors, elle est accessible sur tout support, sur le site limousique.com, bien sûr. Et on peut la télécharger sur Google Play, Apple Store et sur Steam pour la version ordinateur.
Alors, comment ça marche ? Évidemment, on a tous envie de savoir. Vous nous montrez ?
Alors, la première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de solfège parce qu'en fait, on va utiliser une grille d'accords. On a un petit utilitaire dans l'application où on va rentrer les accords qu'on veut utiliser. Et ça va être très souvent les mêmes. On va pouvoir transposer dans toutes les tonalités. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on n'en a pas besoin. On va utiliser A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire la notation des accords en anglais parce qu'on ne trouve que ça sur Internet. Et une fois qu'on a rentré ces accords, et ben on va sélectionner une fondamentale, comme ça, et ça va reparamétrer toutes les autres touches. Ce qui fait que là, je fais un accord de Do, et avec un seul doigt, j'ai un accord complet de Do. Et toutes ces touches-là, avec un petit son de violon, je suis sur mon accord de Do. Je passe en Sol.
C'est-à-dire que là, vous mettez le doigt sur l'écran n'importe comment,
tout
et ça
simplement.
Joue.
C'est de l'harmonie sur tablette.
La pianiste a parlé.
Voilà. Et avec 4 accords. No woman, no cry. No woman, no cry.
On a annoncé la pluie, je peux chanter.
Voilà.
Oui, c'est bluffant. Voilà. Dites-moi, on l'écoute comment la musique, nous, les Français, tout ça et ça ?
Ah, mais bon, il n'y a plus trop de disques, on l'a vu. Hein,
oui. Le vinyle, le CD,
on peut les appeler les dinosaures un peu, en plastique, et grâce au streaming. le marché est reparti. Vous savez que le streaming a généré plus de la moitié des ventes globales, hein, plus de 59% des ventes, et tout particulièrement grâce à aux abonnements payants. Les abonnements payants, c'est la première source de revenus devant le CD. Ils progressent sans arrêt. Ce streaming payant, on peut écouter donc de la musique à travers des plateformes que nous connaissons tous, hein, je vais vous en citer quelques-unes, Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, Qobuz, et ça concerne aujourd'hui plus de 5,5 millions d'utilisateurs en France, et ça ne fait que grandir.
Oui, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on écoute pas mal de musique française.
Et mais oui, et dans ces chiffres qui sont sortis ce matin, les artistes produits en France représentent 80% des meilleures ventes, et 19 des 20 meilleures ventes de l'année 2019 étaient produites en France. Lady Gaga qui fait figure d'exception.
Que dit notre coach Éric Lemaire à propos de cet appareil dingue? Moi j'aurais aimé être musicienne finalement. Avec les musiques, je me rends compte que c'est possible.
Oui, alors c'est-à-dire que là, dans le sujet, on a tous l'impression qu'on va devenir très rapidement musicien, très facilement. Sans doute.
Je suis en train de réfléchir.
Votre cible d'ailleurs, c'est, j'imagine, bon, les enfants, les adultes.
Le grand public.
Le grand public. Mais je me demandais si ce n'était pas un truc super pour les personnes âgées. Parce que je me disais que, est-ce que ça peut ne pas jouer justement contre les maladies dégénérescentes, contre la maladie d'Alzheimer, et justement essayer de se dire qu'en plus de toutes les cibles que vous aurez bien évidemment, et tous ces jeunes qui vont enfin pouvoir apprendre sans faire du solfège, ce que j'ai fait moi, c'est horrible, eh bien, est-ce que ce n'est pas possible justement d'en dire, c'est quelque chose qui médicalement peut aussi intéresser?
Alors bien sûr, oui, ça a été étudié par le laboratoire de sémiotique à l'Université de Limoges, donc effectivement tout ce qui est maladie neurodégénérative, Parkinson, Alzheimer. Donc là, moi je suis en test avec des centres handicapés, mentaux et physiques, parce que ça demande très peu de ressources physiques et mentales. Et on a tous un background musical, effectivement, où on connaît tous des milliers de chansons. Le problème, c'est que pour les jouer avec un instrument, il va falloir minimum 6 mois pour une guitare et 3 à 4 ans pour un piano. Et ça va rester difficile. Et là, on va tout de suite y arriver très facilement.
Ah oui, vous voilà. Travaillez avec un IME, hein, c'est ça?
Un IME, un EIM, donc un établissement aussi de l'APF. Et puis aussi, c'est en étude avec des musicothérapeutes et avec aussi l'Académie de Versailles. Donc, parce qu'en fait, la cible principale, ça va être les professeurs des écoles qui ne sont pas musiciens, qui doivent animer des classes en musique. Et puis la deuxième cible aussi, c'est les écoles de musique. Parce qu'au bout d'un an, il y a 70% des élèves qui abandonnent.
Voilà. Parce que c'est rébarbatif d'apprendre.
Voilà, parce qu'ils apprennent le solfège pendant 1h30, ils font 1 demi-heure d'instrument et à la fin de l'année, ils ne savent rien faire. Alors que moi, un enfant de 3 ans, je fais faire ça avec 2 doigts. Qui se balance,
etc. Une toile, et on fait toile, 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 toile d'araignée.
Il trouvait ce jeu-là.
Voilà,
et puis après, on peut faire le répertoire, on peut faire du Ed Sheeran.
Très belle interprétation du roi d'Agobert en ligne de monsieur, j'ai vu sur Internet.
Le roi d'Agobert a mis sa toile à l'envers. Voilà.
On reste ensemble et on continue à parler musique et à chanter, bien sûr, sur Europe 1.
Europe 1.
Et on vous attend, hein, si vous avez l'oreille musicale, venez, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Patrick Fabre, président de la société Monkey, premier service de streaming audio jeune public. Raphaël Guichard, cofondateur de Bassmi, un caisson de basse portatif personnel qui permet de ressentir le son d'une manière différente. Et Michel Brieux, président fondateur de Limousique, l'application qui transforme tous vos appareils connectés en instruments de musique polyphonique. Notre coach aujourd'hui, c'est Éric Lemaire, directeur de la communication de la marque et de la RSE chez AXA France, évidemment à mes côtés. Elisabeth Assayag est là. Et tiens, si on commençait par écouter de la musique.
Ah, bonne idée.
Coucou. Coucou, ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu veux jouer au jeu des devinettes avec moi?
Oui, je veux bien.
Tu as vu cette petite maison? Tu sais qui habite là?
Non, je ne sais pas.
Alors, c'est un extrait de ce qu'on peut retrouver sur Monkey, Patrick Fabre.
Oui, tout à fait. C'est un éditeur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Benjamin Media. Ce sont de vrais orfèvres de la post-production qui savent enregistrer des enfants et marier ça avec des sonorités d'une poésie folle.
Oui, on l'entend effectivement. On est porté par la musique et par la voix, par le côté enfantin.
Oui, oui, complètement. Alors les histoires, voilà, c'est extrêmement varié. Ça va effectivement d'une histoire classique, plus lue comme dans les livres papier, avec l'émergence aujourd'hui de tous les livres audio, jusqu'à des choses très poétiques. Là, on a une initiation au son, au bruitage. Les enfants vont pouvoir découvrir les sons des animaux, puis ensuite les sons des instruments, et ainsi de suite. Donc il y a un art de faire du jeune public.
Alors, on l'a dit, vous travaillez avec les bibliothèques, avec les crèches aussi, et vous êtes en train de vous développer en direction de la Suisse, du Luxembourg, du Canada ?
Oui, alors déjà avec les bibliothèques, effectivement, bientôt au Canada, là, et puis déjà en Suisse. On est aujourd'hui dans plus de 1500 bibliothèques, hein, en France. On en compte 16 000 en tout. L'aventure a commencé début 2017, voilà. Et puis l'année dernière, en 2019, on a ouvert notre application au grand public. Ça a été notre phase de bêta, comme on dit, voilà, où on a pu expérimenter le service auprès des familles.
Oui, il y a une nouvelle version qui est prête pour cet été, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire cette année d'expérience et de retour d'utilisateur va nous permettre de proposer une nouvelle version encore plus fluide, rééditorialisée et puis avec une navigation améliorée, voilà.
Se tourner vers le grand public, c'est aussi évidemment votre ambition chez Basmi, Raphaël Guichard. On ne l'a pas dit, mais vous êtes d'ores et déjà distribué.
Bien sûr, on est déjà disponible donc, sur notre site, entre autres, donc basmi.fr, B-A-2-S-M-E, et chez quelques distributeurs comme Boulanger ou Auchan. Voilà.
Combien d'enceintes vendues déjà ?
Donc, depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant, on est à 2500.
2500, et ça voilà. Coûte combien,
ça coûte ce 100, dispositif ? 129 euros, prix public, voilà, et après... Voilà, toutes les infos sur basmi.fr et sur nos réseaux sociaux.
Michel Brieux, combien de personnes ont commencé à utiliser l'e-music depuis...
Là, j'ai à peu près 5000 personnes qui l'utilisent.
Et alors, quels sont les premiers retours ?
Écoutez, les gens peuvent jouer de la musique, donc j'ai beaucoup de sourires, je fais beaucoup d'ateliers et les gens sont assez surpris. Voilà, donc les gens qui veulent découvrir l'e-music, c'est L-I-M-O-U-Z-I-K. Parce qu'en fait, il n'y a aucun mot-clé. Tous les mots-clés sont tellement pris déjà que personne ne peut me trouver en me cherchant. Voilà, et puis après...
Regardez-nous, on vous a trouvé.
Oui, bien sûr. Oui. Mais je vous remercie beaucoup.
Ouais, grâce à Laetitia Farine, hein, qui voilà. Est de l'autre côté de la ville.
Et donc, on parlait de handicap. Le gros avantage aussi de l'e-music, c'est l'égalité sociale. C'est que comme c'est tellement peu cher et qu'on a tous les supports, alors si on va en Afrique, par exemple, il n'y a pas d'école de musique, il y a très peu d'instruments. Par contre, ils sont équipés de téléphones et c'est aussi disponible sur smartphone. Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose.
La musique accessible à tous.
Accessible à tous.
Et j'en profite, vous parlez de l'Afrique. Vous travaillez avec la Fondation Orange, justement, pour essayer de faire en sorte que ce soit démocratisé, ce
exactement.
Système-là.
Exactement. Donc, ils ont un programme école numérique. Et donc, l'e-musique est partie en Afrique avec ce programme-là. Dans les écoles, sur des Raspberry Pi, des choses comme ça, donc ils vont pouvoir en disposer.
Éric Lemaire ?
Non, je trouve ça vrai, mais je me demandais si ce n'était pas une sorte de rébellion de votre part d'avoir créé ça, finalement, au départ, non ? Parce que vous avez le chemin
classique.
Oui, mais
classique. Dans chaque invention, il y a effectivement une contestation de l'ordre établi, on va dire. Hein. Et effectivement, de temps en temps, quand je présente ça à certains musiciens, je les vois qui se liquéfient parce que pour eux, la musique,
sacrilège. C'est sacrilège.
Ça, ouais. Voilà, on est dans un truc judéo-chrétien, il faut que ça soit compliqué, il faut que ça fasse mal. Mais bon, moi ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai tourné le robinet, j'avais de l'eau chaude. Voilà, je suis pas allé dans les bois faire du feu et puis au puits. Donc ça fait partie de... Et c'est quelque chose, c'est une solution intermédiaire, ça remplacera pas le philharmonique de Berlin. Ça, c'est sûr.
Ah bon ?
Mais par contre, malheureusement...
On peut essayer, non, peut-être, de remplacer le philharmonique de Berlin ? Non ?
Là, ça va être un petit peu...
Laissez libre cours à votre imagination,
voilà,
on vous écoute.
Ce que je peux vous faire, c'est des trucs hyper connus. On peut faire Ed Sheeran par Ed Sheeran. I found a love for me Dolly just died right in And follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were someone looking for me Cause we were etc. Le refrain, enfin, on peut faire.
Oui, et puis
Lady
alors,
Gaga.
Avec Basmi, on ressent encore plus la musique que l'on joue. Elisabeth, on est bon hein, quand même, Cocorico. Les Français sont spécialisés, notamment dans la distribution numérique.
Et oui, il y a une entreprise, c'est le groupe Believe, qui existe depuis déjà pas mal de temps, très précurseur, 2005, qui s'est spécialisé donc, très tôt dans la distribution numérique de la musique. Hein. C'est un acteur majeur du secteur. Ils sont présents sur toutes les plateformes audio, vidéo. Et voilà, et donc heureusement, on a sept acteurs majeurs en France déjà depuis 2005.
Et puis, difficile de se mettre souvent d'accord sur ce qu'on a envie d'écouter quand on est en soirée entre amis, tout à fait. Et là aussi, je crois que vous avez trouvé une solution française.
Partify, P-A-R-T-Y-F-Y, qui permet de créer des playlists, mais pas tout seul dans votre coin. Ce sont des playlists collaboratives avec vos invités en amont ou pendant la soirée. Ça vous plaît bien, ça, Eric, j'ai l'impression.
Oui,
chacun peut voter pour ce qu'il a envie d'entendre, d'écouter. Il peut faire monter ou descendre lors de diffusion, ajouter des morceaux. Et tout ça, c'est possible grâce à de l'intelligence artificielle. C'est une application qui peut faire même des suggestions en fonction du type de musique choisie au cours de la soirée.
Voilà, vous avez encore trois belles innovations découvertes aujourd'hui par l'équipe de La France Bouge. On est ravis de vous avoir reçus. Merci à Patrick Fabre, à Raphaël Bichard et à Michel Brieux d'avoir été avec nous.
Et merci à vous Raphaël. À lundi, 13h10, on parlera écran et internet, comment les contrôler pour nos enfants et retrouver La France Bouge, votre émission des initiatives positives et novatrices tout le week-end sur Europe 1.fr.